Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 15 septembre 2016 en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, les travaux doivent reprendre aujourd'hui au dialogue national après l'accord d'hier sur la séquence des élections.
Les États-Unis insistent de nouveau au Conseil de sécurité de l'ONU sur le déploiement rapide à Djouba d'une force africaine de protection.
Les États-Unis et la Russie d'accord pour prolonger de 48 heures le cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir en Syrie.
Pas de grâce présidentielle pour Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA, réfugié aujourd'hui en Russie, répète la Maison-Blanche.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, les négociateurs du dialogue national congolais ont annoncé hier à Kinshasa avoir trouvé un accord sur la séquence des élections à venir en République démocratique du Congo, mais sans fixer de date. Cet accord doit permettre la reprise des travaux de ce forum cet après-midi. Des détails avec Bagassi Koura.
Oui, parce que pour l'opposition, qui avait suspendu sa participation au dialogue lundi, il y avait une divergence de vues non négociable avec la majorité sur la priorité à accorder à l'élection présidentielle. Cet accord doit donc permettre la reprise des travaux de ce forum cet après-midi. Au terme de l'accord, la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales se dérouleront exactement le même jour, a déclaré à la presse le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, co-modérateur du dialogue pour le compte de la majorité présidentielle. Les deux parties ont indiqué qu'elles laisseraient le soin à la Commission électorale nationale indépendante de fixer la date à laquelle se tiendront ces scrutins en fonction du temps nécessaire à la constitution de listes électorales fiables. Avant la suspension des travaux, la délégation de l'opposition insistait pour tenir en priorité la présidentielle. La majorité, au contraire, affirmait qu'il faudrait tenir cette élection après l'organisation de tous les autres scrutins en retard.
Les autorités libyennes non reconnues ont affirmé mercredi avoir remis à la Compagnie nationale du pétrole la gestion des principaux terminaux pétroliers dont elle s'était emparée. Nathalie Barge.
Les terminaux de Zouétina, Brega, Ras Lanouf et Al Sedra ont été remis à la Compagnie nationale du pétrole, a déclaré Ahmad Mesmari, porte-parole des forces du général Haftar, loyal aux autorités basées dans l'est de la Libye. Mustapha Sanalla, le président de la Compagnie nationale du pétrole, est arrivé mercredi au terminal de Zouétina, où il a promis de relancer les exportations de pétrole. Les autorités basées dans l'Est, qui ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement d'Union nationale, se sont emparées entre dimanche et mardi des quatre terminaux du croissant pétrolier. Leur coup de force a suscité de nouvelles inquiétudes de la communauté internationale. L'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, a rappelé que la résolution 2259 stipulait que les installations pétrolières du pays devaient être sous l'autorité du gouvernement d'Union nationale.
Les États-Unis ont menacé hier de s'efforcer d'obtenir un embargo international sur les armes contre le Soudan du Sud si ce pays n'accepte pas le déploiement à Djouba d'une force africaine de protection de 4000 hommes. Mais la Russie n'est pas d'accord. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier des consultations à huis clos sur la situation au Soudan du Sud.
650 migrants ont été secourus hier au large de la Libye, où 5 corps ont été découverts. C'est ce que rapportent les gardes-côtes italiens. Ils se trouvaient à bord de 6 embarcations en difficulté. On ne connaît ni la cause des décès, ni la nationalité des rescapés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont entendus pour prolonger de 48 heures le cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir en Syrie. C'est ce qu'a annoncé hier le département d'État. Il y a eu une entente sur le fait qu'en dépit des violences sporadiques signalées, l'accord tient globalement et la violence a régressé, a déclaré Mark Toner, porte-parole du département d'État, lors d'un point de presse.
Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a déclaré hier que l'aide humanitaire constituerait un test clé de la robustesse de l'accord russo-américain sur la Syrie. Les convois d'aide censés ravitailler les zones assiégées restent bloqués malgré l'entrée en vigueur de la trêve. Le chef de la diplomatie française a aussi mis en garde contre toute atteinte à l'opposition modérée. Les Russes ne peuvent pas unilatéralement continuer à bombarder en disant « on ne frappe que les groupes terroristes », a souligné le ministre français.
Pas de grâce présidentielle pour Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA qui vit aujourd'hui en Russie. Il doit être jugé. Cette position a été réaffirmée hier par la Maison-Blanche à la suite des appels lancés par plusieurs associations de défense des libertés au président Barack Obama. Précision de John Lyndon.
Son attitude a mis des vies américaines en danger. Il devrait rentrer aux États-Unis pour répondre des très graves poursuites dont il fait l'objet, a déclaré Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche, réaffirmant la position de l'administration Obama depuis le début de l'affaire. Interrogé spécifiquement il y a quelques jours sur une éventuelle grâce présidentielle, Josh Earnest avait souligné qu'Edward Snowden, actuellement réfugié en Russie, n'avait pas été condamné et que la question ne se posait donc pas à ce stade. En juillet, la Maison-Blanche avait opposé une fin de non-recevoir à une première pétition rassemblant plus de 160 000 signatures. Le lancement de cette campagne coïncide avec la sortie sur les écrans du film Snowden d'Oliver Stone. Le réalisateur américain plaide aussi pour son pardon. Ancien consultant de la très secrète agence de renseignement NSA, Edward Snowden, 33 ans, risque 30 ans de prison ici aux États-Unis pour espionnage.
La police américaine a annoncé hier l'arrestation d'un habitant de la Floride dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel qui a détruit une partie de la mosquée que fréquentait Omar Mateen, l'auteur du massacre dans une discothèque gay d'Orlando en juin. Ce suspect âgé de 32 ans, Joseph Michael Schreiber, risque au moins 30 ans de prison s'il est reconnu coupable. Selon les enquêteurs, il a publié des messages hostiles à l'islam sur les réseaux sociaux.
Au Brésil, moins de 15 jours après la destitution de Dilma Rousseff, le parquet brésilien a demandé hier la mise en examen de son parrain politique, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, au pouvoir de 2003 à 2010. Selon le procureur Deltan Dallagnol, Lula se trouvait en haut de la pyramide et sans son pouvoir de décision, ce réseau de corruption aurait été impossible au sein du géant public pétrolier Petrobras. Ces accusations ont aussitôt été qualifiées de farces par l'avocat de l'ancien président brésilien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
10 millions d'euros, c'est le montant de la somme que Proparco, la filiale de l'Agence française de développement, dédiée au secteur privé, s'est engagée à investir en fonds propres dans la compagnie d'assurance camerounaise Activa. Cet appui financier permettra d'accompagner le groupe Activa dans son développement en Afrique subsaharienne. Arik Air, la compagnie aérienne la plus importante du Nigeria, a annoncé avoir repris ses activités hier après 24 heures de suspension, ce qui avait bloqué des milliers de passagers en Afrique. Arik Air représente 60% du trafic aérien nigérien. En Côte d'Ivoire, le quatrième opérateur téléphonique à obtenir la licence 4G globale est connu depuis hier. Il s'agit de la Société postale de télécommunications et d'informatique de la Libye. Orange, MTN et Move étaient jusqu'ici les seuls détenteurs de la 4G dans le pays. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais en 2015, le coût de cette licence était estimé à 100 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. D'abord, les résultats des matchs de la première journée de la Ligue des champions de football disputée hier soir.
Le Real Madrid, tenant du titre, a battu le Sporting Portugal 2-1. Victoire arrachée in extremis grâce à Cristiano Ronaldo et Morata au Santiago Bernabéu devant environ 50 000 spectateurs. L'Olympique lyonnais a parfaitement débuté sa campagne en s'imposant aux dépens du Dynamo Zagreb 3-0. Leicester City a renversé le FC Bruges 3-0. 1-1 entre Leverkusen et CSKA Moscou 2-2. Manchester City a atomisé les Allemands de Mönchengladbach 4-0. FC Porto et FC Copenhague se sont séparés par 1-0. Juventus et FC Séville 0-0. Monaco fait sa part du contrat contre Tottenham 2-1 à Wembley devant plus de 85 000 spectateurs. Et enfin, Dortmund a assommé le KP Legia Varsovie 6-0, Idrissa.
Et l'affiche des matchs en vue, Eric?
Le 27 septembre à 18h45, temps universel, Dynamo Zagreb va jouer contre Juventus. Le 27 septembre à la même heure, FC Séville contre Lyon. Le 18 octobre à 18h45, temps universel, Lyon va jouer contre Juventus. La même date, à la même heure, Dynamo Zagreb va jouer contre FC Séville. Et le 2 novembre, 19h45, temps universel, Juventus va jouer contre Lyon. Le 2 novembre, toujours à 19h45, temps universel, FC Séville va jouer contre Dynamo Zagreb. Le 22 novembre, 19h45, temps universel, FC Séville va jouer contre la Juventus. La même date, à 19h45, Dynamo Zagreb va jouer contre Lyon. Et le 7 décembre, à 19h45, Juventus contre Dynamo Zagreb. Et enfin, la même date, même heure, Lyon contre FC Séville.
Transfert Angleterre, Lamine Koné prolonge à Sunderland.
Oui, le défenseur international ivoirien Lamine Koné a prolongé son contrat avec Sunderland jusqu'en 2021, malgré une offre d'Everton durant l'été.
Italie, la chaîne Sky met fin à sa collaboration avec Di Canio à cause d'un tatouage.
C'est après la polémique suscitée par son apparition à l'écran avec un tatouage DUX sur le bras. Écrit en lettres capitales, a provoqué l'indignation de nombreux Italiens sur les réseaux sociaux. Dux est en effet le mot latin dont est dérivé l'italien duce, leader général, titre qu'utilisait le dictateur fasciste italien Benito Mussolini.
Athlétisme, Jeux paralympiques de JO 2016.
La petite Tunisie a accompli des exploits avec un total de 13 médailles, Idrissa, dont 5 en or en 6 jours seulement en toute compétition. Des médias tunisiens n'ont pas manqué de célébrer hier les héros des Jeux olympiques de Rio pour agrémenter l'événement.
NBA, Bosch se dit prêt à revenir.
La star des Miami Heat, Chris Bosch, a déclaré hier être prêt à jouer pour la saison NBA à venir. Il sort d'une longue période d'absence due à la présence de caillots sanguins au mollet. Bosch avait déjà manqué la seconde partie de la saison 2014-2015 pour les mêmes raisons, un caillot se logeant dans son poumon et nécessitant une longue hospitalisation. Et c'est tout pour les sports, Idrissa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a levé hier dans un décret les sanctions économiques prises en 2006 contre la Côte d'Ivoire par son prédécesseur George W. Bush. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le porte-parole du parti au pouvoir, le RDR, Joël Nguesson.
Nous nous réjouissons de cette décision qui a été prise et qui traduit le fait que la Côte d'Ivoire est revenue dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire est un pays qui est fréquentable parce que depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara en 2011, le pays a renoué avec la démocratie, avec les droits de l'homme, renoué avec le développement et surtout la croissance, puisque nous sommes à un taux de croissance qui frise les 10%. Alors que nous étions à moins 3% au moment où le président Alassane arrivait. Donc, tous les pays importants considèrent la Côte d'Ivoire comme un pays qui peut bénéficier de toutes les mesures d'allègement en vue de permettre aux Ivoiriens de connaître le développement.
Les sanctions devaient porter un coup dur à l'économie ivoirienne. Comment?
Un pays qui est sous sanction ne peut pas créer les conditions de l'échange. Aussi bien nous vendons du café et du cacao à l'extérieur, nous recevons des produits manufacturés de l'extérieur.
En même temps, le président Obama demande à votre pays de poursuivre les réformes économiques pour s'assurer du développement durable au bénéfice de tous les Ivoiriens. Quelles sont ces réformes que vous allez pouvoir entreprendre?
Nous sommes un pays essentiellement agricole. Le gouvernement a pris l'option de développer tout ce qui est domaine vivrier, tout ce qui permet aux gens de se nourrir sainement et à moindre coût. Et certaines réformes aussi sont en cours pour permettre au gouvernement de booster tout ce qui est réalisation d'infrastructures socio-économiques, que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. Donc, le développement n'est pas fini, il n'est pas parachevé. Il a besoin en permanence d'être renouvelé. À plus forte raison, nous qui avons besoin d'améliorer les conditions de vie de nos populations.
Il dit aussi le renforcement des institutions démocratiques. Est-ce que vous pensez que les institutions font en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri du retour en arrière pour ne plus replonger dans la crise?
C'est un peu pour ça que le président Alassane Ouattara a proposé qu'on ait une nouvelle constitution. Une constitution impersonnelle qui garantisse la démocratie et surtout le vivre ensemble. Donc bientôt nous aurons cette constitution qui sera soumise à référendum au peuple. Donc cette constitution va nous aider à éviter ce que nous avons connu comme ça par le passé. Nous avons des institutions qui sont fortes. Seulement il y a des réglages à faire. Et ce sont ces réglages que nous allons faire dans le cadre du prochain référendum qui se profile à l'horizon.
Joël Nguesson, joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Boko Haram a posté une nouvelle vidéo sur YouTube à l'occasion de l'Aïd al-Adha, mais Aboubakar Shekau, son chef historique, n'apparaît pas sur cette vidéo. Qu'est-il advenu de lui ? Est-il grièvement blessé, comme le laissait récemment entendre l'armée nigériane? Eddie Sango a joint à Lagos l'ancien recteur de l'université de Lagos, le professeur Tundonu Amosu.
C'est quelqu'un qui veut quand même toujours paraître comme, un ennemi invincible. Bien évidemment, si on ne voit pas sur les vidéos, ça veut dire ce que ça veut dire.
Dans une dernière vidéo sur laquelle il paraît, Shekau disait qu'il allait à sa fin. Est-ce que vous pensez qu'il est encore en vie?
Ça m'étonnerait qu'il soit encore en vie parce qu'il est tellement fanfarant que si effectivement il était en vie, il ne manquerait pas l'occasion de venir se moquer des autorités. Et je crois que la mise en scène, je crois que cela va dans le sens de ces gens qui sont vraiment aux abois. Ils savent que ça ne va pas durer très longtemps et bien évidemment, l'armée nigériane a gagné du terrain. La fameuse forêt de Sambisar est déjà encerclée et avec les moyens technologiques qu'on connaît désormais à l'aviation nigériane, je crois que tout ceci va rentrer dans l'ordre très très prochainement.
À regarder la vidéo, on voit des personnes maigrichonnes. Est-ce que Boko Haram a encore la capacité de frapper? Est-ce qu'elle a encore la capacité de recruter?
Recruter peut-être, mais c'est très difficile. Mais ce qui est évident, c'est que pour aller frapper comme ils le font, ils ont désormais besoin de personnes qui nous comprendraient à la situation. Et s'ils ont l'air affamés, c'est qu'on les a privés de nourriture. On a coupé les vivres et tout ce qui était impliqué dans le ravitaillement de Boko Haram. Ils savent que désormais, c'est très, très difficile. Et ils sont d'autant plus désespérés que maintenant, ils envoient de petites, surtout des jeunes filles, des kamikazes, pour montrer qu'ils sont là. Mais même à l'approche de ces jeux, non, l'armée nigériane a reçu justement l'autorisation de tirer. Chaque fois que des jeunes filles approchent, dès la première sommation, on a le droit de tirer. Et les gens ne manquent pas de le faire.
Est-ce que vous pensez que Boko Haram pourra se relever avec la nomination de l'autre chef, Abu Moussab al-Barnouahi?
Vous savez, dans des mouvements de ce genre, il y a un chef historique, mais la relève s'annonce toujours très difficile. Après la mort de Moussouf, il y a eu Chekao. Mais après Chekao, je ne vois pas quelqu'un.
C'était le professeur Tundonu Amosu, ancien recteur de l'Université de Lagos, joint à Lagos.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, plusieurs sociétés pourraient ne pas survivre dans le climat actuel des affaires. Un peu plus de 5 mois après son accession à la présidence, l'homme d'affaires, Patrice Talon, s'évertit toujours à mettre en œuvre ses réformes institutionnelles et politiques, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur à Dondé.
Ils sont nombreux, ces Béninois, qui n'arrivent toujours pas à s'assurer 3 repas par jour. La situation économique étant l'une des plus critiques, malgré tout l'espoir suscité par l'élection de Patrice Talon, vu en mars dernier comme le Messie. Cette actualité de ces nombreuses personnes brûlées au 3e degré dans une localité du Bénin pour s'être jetées sur des produits avariés en flamme en vue de s'approvisionner est un signe éloquent du malaise socio-économique qui plane sur le pays. Le panier de la ménagère s'affaiblit, les entreprises locales presque asphyxiées pourraient fermer les portes, la majorité en tout cas. Epiphane est un jeune chef d'entreprise. Pour lui, les causes de la situation actuelle sont bien diverses.
Mais je faisais plutôt partie de ceux qui pensaient qu'avec un monsieur comme Talon, les affaires vont avoir un nouveau visage, puisque connaissant l'homme, connaissant son histoire, son domaine de provenance, fait partie de ceux qui pensent que, puisqu'il a quitté aussi très loin, il fait partie des jeunes qui ont commencé à zéro. Je me suis dit, il fera certainement partie de ces rares chefs d'État qui très tôt sauront diagnostiquer le mal depuis la base, afin donc de pouvoir relancer les affaires au Bénin. Voilà ce que moi je pensais. Ce que nous ressentons aujourd'hui, le gouvernement précédent, il faudra le lui imputer. Parce que si on ne développe pas l'économique, si on ne structure pas l'économique, comment l'on peut attaquer le social? C'est l'erreur qui avait été commise. Et cette erreur, il faudra qu'au temps de la rupture, l'on prenne conscience de ça et que l'on travaille.
Pour lui, il est important que le chef de l'État pense à éviter le chaos social qui s'annonce.
Le peuple aujourd'hui qui crie, le peuple devrait faire cette analyse-là au lieu directement de s'attaquer, parce que 5 mois ou 6 mois, c'est trop tôt pour penser qu'un gouvernement a failli. Mais c'est aussi une démarche que moi j'apprécie, parce que c'est une démarche d'alerte pour dire mais attention, nous avons faim. Et c'est vrai, tu fais des réformes institutionnelles, politiques, etc. Mais nous avons faim. La nourriture, l'alimentation, c'est capital. Si vous promettez à un peuple le changement des systèmes macroéconomiques, microéconomiques, c'est bon. Mais si ce même peuple n'a pas mangé, quelle que soit la qualité des réformes que vous opérez, le peuple va toujours crier. Et donc, ce qu'il subit aujourd'hui, il devra savoir que c'est la conséquence de ce que notre pays avait toujours été.
Pendant que les Béninois attendent d'avoir suffisamment à manger dans leur assiette, de l'emploi pour faire valoir leurs compétences, plusieurs chefs d'entreprise pensent déposer le bilan si la situation ne s'améliore pas, ou pire encore, aller sous d'autres cieux pour offrir leurs services. Pendant ce temps, la grogne sociale se fait sourde et pourrait devenir tonitruante si le gouvernement ne prend pas les taureaux par les cornes. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, la campagne électorale se poursuit avec ses rebondissements allant de l'enquête ouverte à New York au sujet de la fondation Trump à la santé des 2 principaux candidats, en passant par les emails de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell qui exprime son opinion négative de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Le point, Timothée Donangmaï.
Hillary Clinton, qui a pris quelques jours de repos à cause d'une pneumonie, s'apprête à reprendre la campagne ce jeudi. Son équipe a publié mercredi une lettre de son médecin personnel assurant qu'en dehors de la pneumonie, elle jouit d'une excellente santé. La candidate démocrate se remet bien de sa maladie grâce aux antibiotiques et au repos, écrit son médecin, affirmant que son examen physique s'est avéré normal, qu'elle est en excellente condition mentale et apte à servir comme présidente. C'est sous les feux des projecteurs d'une célèbre émission santé enregistrée mercredi et devant être diffusée ce jeudi que son adversaire républicain a, pour sa part, présenté son bilan de santé. Le médecin Mehmet Oz, animateur du Dr Oz Show, a dit avoir passé en revue avec le candidat républicain les résultats de son examen physique effectué la semaine dernière par son médecin personnel. Le camp du républicain Donald Trump assure qu'il est en excellente santé.
De son côté, l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell renvoie dos à dos les deux principaux candidats de la présidentielle 2016.
Des emails de M. Powell, piratés et publiés sur Internet, révèlent son opinion très négative tant au sujet d'Hillary Clinton que de Donald Trump. Il réserve ses mots les plus durs pour le candidat républicain qu'il a qualifié de « disgrâce nationale » et de paria international. Colin Powell s'est aussi plaint de Mme Clinton, lui reprochant d'avoir utilisé un serveur privé pour ses communications au département d'État plutôt que le réseau gouvernemental sécurisé. Je n'ai jamais dit à Hillary d'avoir un serveur privé à la maison connecté à la Fondation Clinton, écrit Powell dans un email, démentant ainsi les propos de Mme Clinton selon lesquels elle a pris conseil auprès de Powell concernant l'utilisation d'un serveur privé.
Après une série de mauvaises nouvelles concernant la Fondation Clinton, c'est au tour de son adversaire Donald Trump de faire face à de nouvelles questions concernant sa fondation caritative.
L'État de New York a ouvert une enquête suite aux allégations selon lesquelles l'homme d'affaires new-yorkais n'a pas fait de contribution financière en faveur de cette fondation depuis 2008 et qu'il aurait utilisé l'argent de cette fondation pour acheter son propre portrait grandeur nature. Nous sommes en train d'examiner la Fondation Trump pour nous assurer qu'elle se conforme aux lois relatives aux œuvres caritatives dans l'État de New York, a fait savoir Eric Schneiderman, ministre de la Justice de l'État de New York. Ce dernier avait déjà accusé l'Université Trump de fraude, des accusations rejetées par le candidat républicain.
Dans Washington Forum ce jeudi, on se penche sur l'accès à Internet en période électorale. De la campagne américaine qui inonde les réseaux sociaux aux coupures de ces derniers à l'annonce des résultats d'un scrutin, qu'il soit tchadien, congolais ou gabonais. Deux poids, deux mesures, nous explorerons les limites de la toile, les excès ou les suspensions. Que disent les législations africaines, américaines ou encore européennes? Qui a le droit ou non de couper l'accès au réseau? La démocratie passe-t-elle par le web? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.